c'est plus, même si, et je le rappellerai, M. Schweitzer a fait une carrière tout à fait éminente dans la fonction publique, c'est aussi l'expérience de l'homme d'entreprise qui va maintenant se présenter avec lui. M. Schweitzer, comme vous le savez, a fait une grande partie de sa carrière comme directeur dans la haute fonction publique, comme directeur de cabinet de Laurent Fabius sur un certain nombre de ministères dont quand il était Premier ministre de 84 à 86. Mais surtout, et ensuite, M. Schweitzer est entré au groupe Renault, dont il a pris la direction générale puis la présidence, a mené cette entreprise vers sa privatisation, a mené cette opération qui, dans le monde de l'automobile, mais en général dans le monde entier, devient aujourd'hui une référence, cet accord, cette coopération, cet engagement avec le groupe Nissan, cette forme originale d'association entre deux sociétés à travers le monde, qui ont amené M. Schweitzer à construire une construction assez inédite, dans laquelle le rapport à l'autre, la capacité de faire travailler ensemble des cultures différentes, évidemment, était clé du succès. Et enfin, aujourd'hui, M. Schweitzer a pris la présidence de la Haute Autorité pour la lutte contre la discrimination et pour l'égalité, et là également, tirant de son expérience dans la haute fonction publique et dans l'entreprise, ses fondements, ses forces de travailler au sein de notre État pour justement lutter contre les discriminations et l'égalité. M. Schweitzer, que j'avais rencontré septembre dernier, pour lui exposer un peu ce qu'était notre mouvement, ce que nous cherchions à faire, le temps que je lui proposais d'intervenir avait d'abord, et je l'en remercie beaucoup, accepté très gentiment et très facilement cette invitation. Il m'avait dit, je me souviens de vos mots, Monsieur le Président, si on me demande de parler 5 minutes ou 2 heures de Renault, je sais faire. Ce que vous me demandez, je ne sais pas, mais justement, ça m'intéresse. Donc, je vous passe la parole.
Bien. Messieurs, mesdames, messieurs, c'est effectivement assez impressionnant pour moi de parler devant un public auquel je ne suis pas vraiment accoutumé, de sujets dont je ne parle pas toujours. Et à vrai dire, quand j'ai accepté la proposition de Pierre Lecoq, je me suis interrogé sur la question de savoir si j'avais vécu des ruptures dans ma vie, en réponse à des cris perçus du monde. Et la réponse est non. Mes valeurs aujourd'hui sont celles dans lesquelles j'ai été élevé, et mes convictions n'ont pas changé. En revanche, oui, j'ai eu beaucoup de chance. Tout au long de ma vie, j'ai fait des découvertes. Et effectivement, je ne vais pas parler de ma vie d'avant Renault, même si elle a été active. Lors de mon arrivée chez Renault, Georges Bess m'a envoyé pendant 6 mois comme stagiaire en usine. Il m'avait dit « il faut vous faire oublier ». J'ai vécu donc pendant 6 mois au milieu d'un monde ouvrier que je connaissais de façon tout à fait abstraite, tout à fait théorique. Et j'ai beaucoup appris, alors je ne peux pas résumer ici tout ce que j'ai appris, mais une image m'a marqué. C'était un atelier immense, sombre, bruyant, où des centaines d'hommes, presque tous venus d'Afrique, travaillaient dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Et on les imaginait, ces hommes, plutôt, plus naturellement, dans de grands espaces sous un ciel éclatant de lumière. Et pourtant, ils étaient venus ici, à notre demande, pour travailler et pour gagner leur vie. Il n'y avait aucun cri, il n'y avait aucune révolte. Mais, quand même, face à ces hommes, là, travaillant dans ces conditions, il y avait une sorte d'appel à la reconnaissance de la dignité. Et, au fond, c'est quelque chose qui m'avait frappé, et ma conviction, qui n'a pas changé au cours de mes 20 années chez Renault, c'est qu'une entreprise, sur la longue période, ne peut réussir que si éthique...